Chapitre 2. Quelques années s'écoulèrent. Un jour, B, en rentrant chez lui après une répétition, se heurta dans une ruelle près d'un misérable débit à un homme mal vêtu, ivre, qu'il appela par son nom. C'était Efimov. Il avait beaucoup changé. Il était jaune, maigre. La vie désordonnée qu'il menait avait mis sur lui son empreinte indélébile. B fut heureux de cette rencontre et, sans prendre le temps d'échanger deux mots avec lui, le suivit dans le débit où Efimov l'entraîna. Là, dans une petite pièce reculée, très sale, il examina de plus près son camarade. Celui-ci était presque en guenilles, les chaussures déchirées, le plastron usé, maculé de taches de vin. Sa tête grisonnante commençait à devenir chauve. « Et qu'as-tu ? Où es-tu maintenant ?» interrogeait B. Efimov se montrait gêné, timide même. Il répondait d'une façon incohérente, si bien que B crut avoir affaire à un fou. Enfin, Efimov avoua qu'il ne pouvait parler si on ne lui donnait pas d'eau de vie, et que dans ce débit depuis longtemps on ne lui faisait plus crédit. Il rougit en prononçant ces paroles, bien qu'il cherchât à s'encourager par un geste hardi. Tout cela était laid, navrant, pitoyable, et à tel point pénible que le brave B, qui voyait que toutes ses craintes n'étaient que trop justifiées, ressentit une vive compassion. Il commanda cependant de l'eau de vie. Le visage d'Efimov changea d'expression. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il était pénétré de reconnaissance et touché à tel point qu'il était prêt à baiser les mains de son bienfaiteur. Pendant le dîner, B apprit avec le plus grand étonnement que le malheureux s'était marié, mais sa surprise fut encore plus grande quand il entendit de lui que sa femme avait fait son malheur et que le mariage avait tué complètement son talent. « Mais comment cela ?» demanda B. « Oh, mon cher, voilà déjà 2 ans que je n'ai pas touché un violon, » répondit Efimov. « Ma femme est une cuisinière, une femme grossière, que le diable emporte. Nous ne faisons que nous battre, voilà tout. Mais alors pourquoi t'es-tu marié, si c'est ainsi ? J'avais pas de quoi manger, j'ai fait sa connaissance, elle avait 1 000 000 roubles, je me suis marié, j'ai perdu la tête. » C'est elle qui s'est amourachée de moi. Elle s'est pendue à mon cou, qui l'a poussée. L'argent a été bu, mon cher. Quel talent, et tout est perdu. B remarqua qu'Efimov semblait soucieux de se justifier devant lui de quelque chose. « J'ai tout abandonné, tout quitté, » ajouta-t-il. Puis il lui déclara que les derniers temps, il avait presque atteint la perfection sur le violon et que lui, B, bien que l'un des premiers violonistes de la ville, ne lui arriverait pas à la cheville si lui, Efimov, le voulait. « Alors, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda B, étonné. « Tu aurais dû chercher une place. Oh, à quoi bon ?» dit-il avec un geste de la main. « Qui de vous comprend quelque chose ? Mais qu'est-ce que vous savez ? Rien, voilà ce que vous savez. Jouer une danse dans un ballet, ça, c'est votre affaire. Vous n'avez jamais vu ni entendu un bon violoniste. Ce n'est pas la peine de vous toucher, allez en rester ce que vous êtes. » Efimov fit encore un geste de la main et se mit à se balancer sur sa chaise. Il était déjà gris. Puis il invita B à l'accompagner chez lui. B refusa, mais prit son adresse et promit de passer le voir le lendemain. Efimov, maintenant rassasié, regardait ironiquement son ancien camarade et s'appliquait par tous les moyens à le mortifier. En partant, il prit la riche pelisse de B et la lui rendit comme un valet à son maître. En traversant la première salle, il s'arrêta et présenta B au cabaretier et au public comme le premier et unique violon de la capitale. En un mot, il se comporta en parfait butor. Cependant, B alla le voir le lendemain matin dans le galetas où nous vivions alors tous dans une chambre unique et dans une sombre misère. J'avais, moi, alors 4 ans. Il y avait déjà 2 ans que ma mère avait épousé en seconde noces Efimov. Ma mère était une femme très malheureuse. Autrefois, elle avait été gouvernante. Elle était très instruite, jolie, mais sa grande pauvreté lui avait fait épouser un vieux fonctionnaire, mon père. Elle ne vécut avec lui qu'une année. Mon père mourut subitement et quand son maigre héritage eut été partagé entre ses héritiers, ma mère resta seule avec moi et une petite somme d'argent qui composait sa part. Se placer de nouveau comme gouvernante avec un enfant sur les bras était chose difficile. C'est à ce moment qu'on, je ne sais par quel hasard, elle rencontra Efimov et qu'effectivement elle s'amouracha de lui. Elle était enthousiaste et rêveuse, elle vit en Efimov un génie. Elle crut dans ses paroles orgueilleuses sur son brillant avenir. Son imagination était flattée de la perspective enviée de devenir le guide, l'appui d'un homme de génie. Elle l'épousa. Dès le premier mois, tous ses rêves, tous ses espoirs s'évanouirent, et devant elle, il n'y eut plus que la misérable réalité. Efimov, qui peut-être, en effet, s'était marié parce que ma mère possédait 1 000 000 roubles, une fois ceci dépensé, cessa de travailler, et comme s'il était heureux du prétexte, il déclara aussitôt à tous et à chacun que le mariage avait tué son talent, qu'il était impossible de travailler dans une chambre étouffante avec devant lui une famille affamée, que l'aspiration ne lui viendrait jamais dans un tel milieu, et qu'enfin un tel malheur pour lui était évidemment de la fatalité. Il paraît que lui-même avait fini par croire à la légitimité de ses plaintes et semblait content d'avoir cette excuse. Ce malheureux talent gâché cherchait une raison extérieure à laquelle pouvoir imputer toutes ses misères. Mais il ne pouvait pas se faire à l'idée terrible que depuis longtemps et pour toujours, il était perdu pour l'art. Il luttait passionnément, comme dans un cauchemar maladif, contre cette affreuse conviction. Et quand, vaincu par la réalité, ses yeux, par moments, s'ouvraient, il se sentait prêt de devenir fou d'épouvante. Il ne pouvait renoncer sans déchirement à ce qui, pendant si longtemps, avait été toute sa vie. Et jusqu'à sa dernière heure, il s'imagina que son talent n'était pas encore tout à fait mort. Pendant ses heures de doute, il s'adonnait à la boisson qui chassait son angoisse. Enfin, à cette époque, peut-être ne savait-il pas lui-même combien cette femme lui était précisément nécessaire. Elle était son prétexte vivant, et en effet, mon beau-père faillit devenir fou à l'idée que du jour où il enterrerait cette femme qu'il avait perdue, tout reprendrait son cours normal. Ma pauvre mère ne le comprenait pas. En véritable rêveuse, elle ne supporta même pas le premier choc de la terrible réalité. Elle devint emportée, irritable, grossière. À chaque instant, elle se querellait avec son mari, qui prenait plaisir à la faire souffrir. Elle voulait surtout qu'il cherchât du travail. Mais l'aveuglement, l'idée fixe de mon beau-père, ses bizarreries, faisait de lui un être presque inhumain et privé de sentiments. Il ne faisait que rire et jurait de ne pas toucher un violon avant la mort de sa femme, ce qu'il lui déclarait avec une franchise cruelle. Ma mère, qui jusqu'à son dernier souffle l'aima passionnément, ne pouvait cependant supporter une vie pareille. Sa santé s'altéra. Toujours souffrante, elle vivait dans des transes perpétuelles. En outre, elle avait la charge de nourrir toute la famille, seule. Elle s'était mise à faire la cuisine et d'abord avait pris des pensionnaires. Mais son mari lui dérobait tout son argent et souvent elle devait envoyer des plats vides à ceux pour qui elle trimait. Quand B va nous voir, elle s'embrouillait à laver du linge et à réparer de vieux habits. C'est ainsi que nous vivions dans notre grenier. Notre misère frappa B. Écoute, dit-il à mon beau-père, tu ne dis que des sottises. Qu'est-ce que cela veut dire, le talentué? C'est elle qui te nourrit et toi, que fais-tu? Rien, répondit mon beau-père. Mais B ne connaissait pas encore tout le malheur de ma mère. Son mari amenait souvent chez lui une bande de vauriens. Et alors, que se passait-il, mon Dieu? B sermonna longtemps son ancien camarade et il lui déclara pour finir que s'il ne voulait pas s'amender, il ne lui viendrait plus en aide. Il le prévint très franchement qu'il ne lui donnerait pas d'argent pour le dépenser à boire, et il lui demanda de lui jouer quelque chose afin de voir ce qu'on pourrait faire pour lui. Pendant que mon beau-père allait chercher son violon, B en cachette tendit de l'argent à ma mère. Elle le refusa. C'était la première fois qu'on lui offrait l'aumône. Alors B me le donna, et la pauvre femme fondit en larmes. Mon beau-père apporta le violon et commença par demander de l'eau de vie, déclarant que sans cela, il ne pourrait pas jouer. On envoya chercher de l'eau de vie. Il but et devint de joyeuse humeur. Par amitié pour toi, je te jouerai quelque chose de ma composition, dit-il à B. Et il exhuma de la commode un gros cahier tout couvert de poussière. Voilà, tout cela, c'est de moi, dit-il en montrant le cahier. Tu verras, oh, c'est autre chose que vos balais. B feuilleta en silence quelques pages. Ensuite, il prit la musique qu'il avait avec lui et demanda à mon beau-père de laisser de côté ses propres compositions et de jouer quelque chose qu'il avait apporté. Mon beau-père se montra un peu offensé. Cependant, craignant de perdre cette nouvelle occasion, il fit ce que lui demandait B. Celui-ci constata alors que son ancien camarade avait en effet beaucoup travaillé et fait des progrès depuis leur séparation, bien qu'il se vantât de n'avoir pas touché son violon depuis son mariage. Il fallait voir la joie de ma pauvre mère. Elle regardait son mari, elle était de nouveau fière de lui. Le bon B, très sincèrement heureux de cela, promis de procurer du travail à mon beau-père. À cette époque, B avait déjà de grandes relations, et il se mit immédiatement à recommander son pauvre camarade, auquel il fit donner sa parole d'honneur qu'il se conduirait bien. En attendant, il lui acheta des vêtements neufs et le présenta à quelques personnages connus desquels dépendait l'emploi qu'il désirait obtenir pour lui. Elimov faisait bien un peu le fier en parole, mais ce fut avec la plus grande joie qu'il accepta la proposition de son vieil ami. B racontait plus tard qu'il avait eu honte de l'obséquiosité et de l'humilité avec lesquelles mon beau-père essayait de l'attendrir, craignant de perdre ses bonnes grâces. Efimov, comprenant qu'on cherchait à le ramener dans la bonne voie, cessa même de boire. Enfin, on lui trouva une place dans l'orchestre d'un théâtre. Il subit brillamment les épreuves, et en un mois d'application et de travail, il avait recouvré tout ce qu'il avait perdu en 18 mois d'inaction. Il promit à l'avenir de travailler et d'être exact dans ses nouvelles fonctions. Mais la situation de notre famille ne s'améliora aucunement. Mon beau-père ne donnait pas un sou de ses appointements à ma mère. Il dépensait tout à boire et à manger avec ses nouveaux amis, qu'il eut tout de suite en grand nombre. Il se lia d'amitié de préférence avec les employés du théâtre, les choristes, les figurants, en un mot avec les gens parmi lesquels il pouvait occuper la première place, évitant les personnes d'un talent réel. Il sut leur inspirer un respect particulier pour sa personne. Il leur expliqua tout de suite qu'il était un homme méconnu, qu'il avait un énorme talent, que sa femme l'avait perdu et qu'enfin leur chef d'orchestre ne comprenait rien à la musique. Ils se moquaient de tous les artistes de l'orchestre, du choix des pièces représentées et des auteurs même des opéras. Enfin, il se mit alors à développer une nouvelle théorie de la musique. Il fit si bien qu'il ennuya tout l'orchestre, se fâcha avec ses camarades et son chef, se montra grossier envers ses supérieurs et acquit la réputation de l'homme le plus déséquilibré et le plus nul qui fût. Il se rendit bientôt insupportable à tous. En effet, il était vraiment étrange de voir un homme de si peu d'importance, un exécutant aussi inutile, un musicien aussi négligent, faire montre de prétentions si excessives et se vanter d'un ton aussi assuré. Cela se termina par la brouille de mon beau-père avec B. Il avait inventé sur lui de vilaines histoires, de méchantes calomnies, qu'il avait mises en circulation comme des faits indiscutables. On l'obligea à donner sa démission de l'orchestre au bout de 6 mois de mauvais service, pour négligence et ivrognerie. Mais il n'abandonna pas si vite la place. Bientôt, on le vit dans ses guenilles d'autrefois, son costume propre ayant été parti vendu, parti engagé. Il se mit à fréquenter ses anciens collègues, sans se préoccuper de leur plus ou moins de satisfaction à recevoir de pareilles visites. Il colportait des racontars, disait des sottises, se plaignait de sa vie et engageait tout le monde à venir voir sa criminelle de femme. Sans doute, il se trouvait des auditeurs qui, souvent, après avoir fait boire le camarade cassé au gage, s'amusait à le faire dégoiser 1000 stupidités. Il faut dire aussi qu'il parlait généralement d'une façon spirituelle et que ses propos fielleux, aucunement, abordaient en remarques cyniques qui amusaient les auditeurs d'une certaine catégorie. On le traitait en bouffon à moitié fou, dont la conversation peut parfois amuser quand on n'a rien de mieux à faire. On se plaisait à l'irriter en parlant devant lui de quelques nouveaux violonistes récemment arrivés. Aussitôt, Efimov changeait de couleur, s'effarait, tâchait de savoir qui était arrivé, quel était ce nouveau talent, et immédiatement se montrait jaloux de sa gloire. Il me semble que de cette époque seulement date sa vraie folie systématique, son idée fixe d'être le plus grand violoniste du mois de Pétersbourg, d'être persécuté par le sort en but à toutes sortes d'intrigues incompris et ignorées. Cette dernière pensée le flattait même, car il a des caractères qui aiment à se sentir offensé, humilié, à s'en plaindre bien haut ou à s'en consoler tout bas, en admirant leur génie méconnu. Il connaissait tous les violonistes de Pétersbourg, et à son avis, pas un seul ne pouvait rivaliser avec lui. Les amateurs et les dilettantes, qui connaissaient le malheureux fou, aimaient à citer devant lui tel violoniste célèbre, afin de le forcer à parler à son tour. Il savourait sa méchanceté, ses remarques judicieuses, ses mots caustiques et spirituels, lorsqu'il critiquait le jeu de ses rivaux imaginaires. Souvent, on ne le comprenait pas, mais en revanche, on était sûr que personne au monde ne savait si habilement présenter une si bonne caricature des célébrités musicales contemporaines. Les artistes mêmes dont il se moquait le craignaient un peu, car ils connaissaient sa méchante langue et avaient aussi conscience de la justesse de ses attaques et de la sûreté de ses jugements. On s'était habitué à le voir dans les couloirs et les coulisses du théâtre. Les employés le laissaient passer sans aucune difficulté, comme un personnage nécessaire, et il était devenu une sorte de tercite. Cette vie dura 2 ou 3 ans. Mais à la fin, même dans ce dernier rôle, il réussit à ennuyer tout le monde. On le chassa définitivement, et les 2 dernières années de sa vie, mon beau-père disparut complètement de la circulation. On ne le voyait plus nulle part. Cependant, B le rencontra 2 fois, mais sous un aspect si misérable que la pitié encore l'emporta sur le dégoût. B l'appela. Mon beau-père, offensé, feignit de n'avoir pas entendu, enfonça jusqu'aux yeux son vieux chapeau râpé et passa. Enfin, un jour de grande fête, le matin, on annonça à B que son ancien camarade Efimov venait le féliciter. B alla à sa rencontre. Efimov était ivre. Il se mit à saluer très bas, presque jusqu'à terre, marmonna quelque chose et ne voulut à aucun prix entrer dans la chambre. Ce qui signifiait sans doute « Nous autres gens sans talent, nous ne pouvons frayer avec des gens aussi admirables que vous. Pour nous, êtres infimes et misérables, la fonction de valet qui vient féliciter au jour de fête et s'en va aussitôt est la seule qui nous convienne. » En un mot, tout dans sa conduite était bas, stupide, ignoble. Après quoi, B ne le vit plus. Jusqu'au moment de la catastrophe qui termina cette vie triste, lamentable, morbide et nébuleuse. Elle s'acheva d'une façon terrible. Cette catastrophe est étroitement liée non seulement aux premières impressions de mon enfance, mais même à toute ma vie. Voici comment elle se produisit. Mais auparavant, je dois expliquer ce que fut mon enfance et ce que fut pour moi cet homme qui marqua si péniblement mes premières impressions et fut cause de la mort de ma pauvre mère. Mes souvenirs me remontent qu'à 10 années. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui m'est arrivé avant cette époque n'a laissé en moi aucune impression nette qui puisse maintenant éveiller un souvenir. Mais à partir de 8 ans et demi, je me rappelle nettement tout, jour par jour, sans interruption, comme si tout ce qui m'est arrivé depuis s'était passé hier. Il est vrai que je puis me rappeler comme dans un rêve, certains faits remontant à une date antérieure. Une veilleuse toujours allumée dans un coin sombre, près d'une icône ancienne. Puis qu'un jour, je fus renversé par un cheval, à la suite de quoi, à ce qu'on m'a raconté depuis, je fus malade pendant 3 mois. Je me rappelle aussi que, pendant cette maladie, une fois, je m'étais éveillé dans le lit, près de ma mère avec qui je couchais, effrayé tout d'un coup de mes rêves maladifs, du silence de la nuit et des souris tapis dans un coin, et que j'avais tremblé de peur toute la nuit, caché sous la couverture et n'osant pas éveiller ma mère, de quoi je conclus que j'avais peur d'elle plus que de tout. Mais dès l'instant où j'ai commencé à avoir conscience de moi, je me suis développé rapidement d'une manière tout à fait inattendue et plusieurs impressions, n'ayant rien d'enfantin, sont demeurées pour moi très vivantes. Tout s'éclaira devant moi, tout devint très rapidement compréhensible. L'époque à dater de laquelle je commence à bien fixer mes souvenirs a laissé en moi une impression de laideur et de tristesse. Cette impression ne devait plus s'effacer s'accentuant au contraire chaque jour. Elle revêtit d'une couleur sombre et étrange toute la période de ma vie chez mes parents, et en même temps toute mon enfance. Maintenant, il me semble m'être éveillé, soudain, d'un sommeil profond, bien qu'alors, sans doute, cela ne fût pas pour moi si frappant. Je me trouve dans une grande chambre étouffante, malpropre, au plafond très bas. Les murs sont badigeonnés en gris sale. Dans le coin, il y a un énorme poêle russe. Les fenêtres donnent sur la rue, ou plutôt sur le toit de la maison d'en face. Elles sont basses et larges comme des fentes. Le rebord de la fenêtre était si haut au-dessus du parquet que je me rappelle qu'il me fallait placer une chaise sur un banc pour l'atteindre, et même ainsi j'arrivais difficilement à la fenêtre où j'aimais tant à rester assis quand il n'y avait personne à la maison. De notre logement, on découvrait la moitié de la ville. Nous vivions sous le toit d'une immense maison de 6 étages. Tout notre mobilier se composait d'un débris de divans cirés, plein de poussière, et d'où sortait le crin, d'une table de bois blanc, de 2 chaises, du lit de ma mère dans un coin, d'une petite armoire remplie de choses hétéroclites, d'une commode toute penchée d'un côté, d'un paravent de papier déchiré. Je me rappelle que c'était au crépuscule. Tout était en désordre et éparpillé sur le plancher, des balais, des chiffons, notre vaisselle de bois, une bouteille brisée, je ne sais plus quoi encore. Je me rappelle que ma mère était très émue et pleurait. Mon beau-père était assis dans un coin avec son veston éternellement déchiré. Il répondait en souriant à ma mère, ce qui la fâchait encore davantage, et alors de nouveau tombait sur les sols, balais, vaisselle, etc. Mais je pleurais, je criais, je m'étais jeté entre eux, j'étais très effrayé, et je saisis mon père que j'enlaçais fortement pour le défendre de mon corps. Dieu sait pourquoi il m'avait semblé que ma mère se fâchait à tort contre lui, qui n'était pas coupable. Je voulais intercéder pour lui, supporter pour lui n'importe quelle punition. Je craignais maman et supposais que tout le monde avait peur d'elle. Ma mère d'abord fut étonnée. Ensuite, elle me saisit par le bras et me repoussa vers le paravent. Je me cognais le bras assez fort contre le lit, mais j'avais plus de peur que de mal et ne fronçais même pas les sourcils. Je me rappelle encore que ma mère se mit à prononcer quelques mots avec vivacité en me désignant. Dans ce récit, j'appellerai toujours mon beau-père père, car ce n'est que beaucoup plus tard que j'appris qu'il n'était que pas mon père. Toute cette scène dura 2 heures, et tremblant d'angoisse, j'essayais de deviner comment cela se terminerait. Enfin, la querelle s'apaisa, et ma mère sortit. Alors, père m'appela, m'embrassa, me caressa la tête et me prit sur ses genoux. Fortement, je me serrai contre sa poitrine. C'était peut-être pour la première fois que mon père se montrait tendre avec moi. Et c'est peut-être pourquoi ce fut à partir de ce moment-là que j'ai commencé à tout me rappeler avec netteté. Je crus comprendre aussi que j'avais mérité la faveur de mon père pour être intervenu pour lui. Et il me semble que ce fut alors pour la première fois que je fus frappé de l'idée qu'il souffrait beaucoup et endurait par la faute de ma mère beaucoup de chagrin. Depuis, cette idée s'ancra en moi pour toujours et chaque jour me révolta davantage. À dater de ce moment, naquit en moi un amour infini pour mon père, un amour étrange et merveilleux qui n'avait rien, semble-t-il, d'amour enfantin. Je dirais plutôt que c'était un sentiment de pitié maternelle, si une pareille définition de mon amour était un peu ridicule, appliquée aux sentiments d'un enfant. Mon père me paraissait si pitoyable, si persécuté, si opprimé, si douloureux, que j'eusse trouvé affreux, inhumain, de ne pas l'aimer infiniment, de ne pas le consoler, le cajoler, de ne pas m'attacher à lui de toutes mes forces. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas d'où pouvait m'être venu en tête que mon père était un pareil martyr, un être pareillement malheureux. Qui avait bien pu m'inspirer cela? Comment moi, une enfant, pouvais-je comprendre quelque chose à ses malheurs personnels? Et je les comprenais, bien qu'interprétant tout dans mon imagination et à ma façon. Mais aujourd'hui même, je ne puis concevoir comment une pareille impression s'était formée en moi. Peut-être ma mère était-elle trop sévère pour moi, et m'étais-je attaché à mon père comme à un être qui, dans mon idée, souffrait comme moi-même? J'ai déjà raconté mon premier réveil de mon rêve enfantin, mon premier mouvement dans la vie. Mon cœur se trouva meurtri du premier moment, et mon développement se fit avec une rapidité incroyable, maladive. Je ne pouvais plus me satisfaire de mes seules impressions extérieures. Je commençais à penser, à réfléchir, à observer. Mais cette observation était si prématurée que mon imagination ne pouvait ne point tout refaire à sa manière, si bien que tout d'un coup, je me trouvais transporté dans un autre monde très particulier. Tout ce qui m'entourait commençait à ressembler à ce conte de fées que mon père me racontait souvent et que je ne pouvais ne pas prendre pour la vérité. De bizarres conceptions naissaient en moi. Je sentais très bien, et je ne sais pas comment cela s'était fait, que je vivais dans une famille étrange et que mes parents ne ressemblaient pas du tout aux gens qu'il m'arrivait parfois de rencontrer. Pourquoi, pensais-je, pourquoi vois-je d'autres personnes qui, même extérieurement, ne ressemblent pas à mes parents? Pourquoi avais-je découvert le rire sur d'autres visages alors que j'étais frappé de ce que chez nous, dans notre coin, on ne riait jamais, on ne s'égayait jamais? Mais quelle force, quelle raison me poussait, moi, enfant de 9 ans, à regarder si attentivement autour de moi, à écouter chaque parole de ceux que par hasard je rencontrais dans l'escalier ou dans la rue, quand le soir, mes guenilles protégées par une vieille pèlerine de ma mère, j'allais à l'épicerie avec de la monnaie de billon, achetée pour quelques copecks de sucre, de thé ou de pain. Je comprenais, je ne me rappelle pas comment, mais que dans notre taudis habitait un malheur effroyable, éternel. Je me creusais la tête à deviner pourquoi cela, et je ne sais pas quoi m'aider à y répondre à ma façon. J'accusais ma mère. Je la considérais comme le mauvais génie de mon père, et je le dis de nouveau, je ne comprends pas comment une conception si monstrueuse avait pu germer dans mon imagination. Et autant je m'étais attaché à mon père, autant je haïssais ma pauvre mère. Aujourd'hui encore, le souvenir de tout cela me tourmente profondément, douloureusement. Mais voici un autre fait qui, plus encore que le premier, contribua à mon étrange rapprochement avec mon père. Un jour, à 10 heures du soir, ma mère m'envoya dans une boutique chercher de la levure. Mon père n'était pas à la maison. En revenant, je tombai dans la rue et renversai ma tasse. Ma première pensée fut la colère de maman. Cependant, je ressentais une terrible douleur dans le bras gauche et ne pouvais pas me relever. Des passants s'attroupèrent autour de moi. Une vieille femme m'aida à me relever et un gamin qui courait devant moi me frappa avec une clé sur la tête. Enfin, on me mit sur pied. Je ramassais les morceaux de la tasse brisée et, toute chancelante, pouvant à peine remuer les jambes, je me dirigeais du côté de chez nous. Tout d'un coup, j'aperçus mon père. Il était dans la foule devant une belle maison qui se trouvait juste en face de la nôtre. Cette maison appartenait à des nobles. Elle était merveilleusement éclairée. Près du perron stationnait une quantité de voitures et des sons de musique arrivaient au dehors à travers les fenêtres. Je saisis mon père par le bas de son veston. Je lui montrai la tasse cassée et en pleurant, je lui exprimai ma crainte de rentrer chez maman. J'étais sûr, je ne sais pourquoi, mais j'étais sûr qu'il intercéderait pour moi. Mais pourquoi étais-je sûr? Qui me l'avait dit? Qui m'avait appris qu'il m'aimait plus que ma mère? Pourquoi m'étais-je approché de lui sans crainte? Il me prit par la main, se mit à me consoler, puis me dit qu'il voulait me montrer quelque chose, et il me souleva dans ses bras. Je ne pouvais rien voir parce qu'il m'avait pris par mon bras meurtri et j'avais atrocement mal. Mais je ne poussais pas un cri ayant peur de lui faire de la peine. Il me demanda si je voyais quelque chose. De toutes mes forces, je tâchais de trouver une réponse qui lui fît plaisir, et je lui dis que je voyais des rideaux rouges. Quand il voulut me porter de l'autre côté de la rue vers notre maison, alors je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je me mis à pleurer, à l'embrasser en lui demandant de monter le plus vite possible chez maman. Je me rappelle qu'alors les caresses de mon père m'étaient pénibles. Je ne pouvais supporter l'idée qu'un de ceux que je désirais tant aimer me caressa et m'aima, alors que je n'osais pas et craignais même d'aller chez l'autre. Ma mère se montra à peine fâchée et m'envoya dormir. Je me rappelle que la douleur de mon bras augmenta et me donna la fièvre. Oh, cependant, j'étais extrêmement heureuse que tout se fût si bien terminé. Et toute la nuit, je vis en rêve la maison voisine aux rideaux rouges. Quand je me réveillais le matin, le lendemain, ma première pensée, mon premier souvenir, fut la maison aux rideaux rouges. À peine ma mère fut-elle sortie que je grimpais sur le rebord de la fenêtre pour la regarder. Depuis longtemps déjà, cette maison avait frappé ma curiosité d'enfant. J'aimais surtout la voir vers le soir, quand les feux s'allumaient dans la rue et qu'elle se mettait à briller d'un éclat particulier, comme ensanglantée de ses rideaux de pourpre sur ses grandes fenêtres brillamment éclairées. De luxueuses voitures attelées de superbes chevaux s'arrêtaient incessamment devant son perron et tout avivait ma curiosité. Les cris, l'encombrement près du perron, les lanternes bigarrées des équipages, les femmes aux merveilleuses toilettes qui en descendaient. Tout cela, dans mon imagination d'enfant, revêtait l'aspect d'un luxe royal et presque féerique. Après ma rencontre avec mon père devant la riche demeure, celle-ci me parut deux fois plus merveilleuse et plus captivante. Maintenant, dans mon imagination exaltée, commençaient à naître des idées et des suppositions féeriques. Et je ne m'étonne pas, vivant parmi des gens aussi bizarres que mon père et ma mère, d'être devenue une enfant aussi étrange et imaginative. J'étais particulièrement frappé du contraste de leur caractère. J'étais frappé, par exemple, de ce que ma mère se préoccupa toujours de notre pauvre ménage, reprocha éternellement à mon père d'être seul à travailler pour nous tous, et malgré moi, je me posais cette question. Mais pourquoi donc, père, ne l'aide-t-il pas? Pourquoi a-t-il l'air d'un étranger dans notre demeure? Alors, quelques paroles de ma mère avaient éveillé en moi cette idée, et avec étonnement, j'appris que mon père était un artiste. Ce mot se grava dans ma mémoire. Dans mon imagination se forma aussitôt l'idée qu'un artiste est un homme particulier qui ne ressemble pas aux autres hommes. Peut-être la conduite même de mon père m'avait-elle induite à cette idée. Peut-être avais-je entendu quelque chose qui est maintenant sorti de ma mémoire. Mais le sens des paroles de mon père se trouva étrangement compréhensible pour moi quand un jour il déclara en ma présence, avec un accent particulier, que le temps viendrait où lui aussi ne serait pas dans la misère et où lui aussi serait un monsieur et un homme riche, et qu'enfin il renaîtrait de nouveau quand ma mère serait morte. Je me rappelle que tout d'abord j'eus peur de ces paroles, terriblement peur. Je ne pus rester dans la chambre. Je courus dans le vestibule glacé, et là, accoudé à la fenêtre et le visage dans mes mains, je me mis à sangloter. Mais ensuite, quand j'eus réfléchi, quand je me fus habitué à cet horrible désir de mon père, l'imagination vint tout d'un coup à mon aide. Je n'avais plus à me tourmenter d'une incertitude, et il me fallait absolument m'arrêter à une supposition quelconque. Et voilà, je ne sais pas comment cela commença, mais à la fin, je m'arrêtai à cette idée que quand ma mère mourrait, mon père quitterait notre sombre taudis et s'en irait quelque part avec moi. Mais où? Jusqu'au tout dernier jour, je ne pouvais me le représenter clairement. Je me rappelle seulement que tout ce que je pouvais imaginer de l'endroit où nous irions ensemble, car nous devions partir ensemble, c'était certain. Tout ce que ma fantaisie pouvait concevoir de brillant, de somptueux, de magnifique, tout cela, dans mes rêves, devenait réalité. Il me semblait que nous devenions riches aussitôt. Je ne courais plus faire des commissions dans les petites boutiques, chose qui m'était très pénible parce que les enfants de la maison voisine me faisaient toujours des misères quand je sortais. Ce que je redoutais au plus haut degré, surtout quand je rapportais du lait ou du beurre, sachant que si je le laissais tomber, je serais sévèrement puni. Ensuite, dans un rêve, j'avais résolu que mon père aussitôt se commanderait un bel habit, que nous nous installerions dans une somptueuse demeure, et c'est alors que la belle et grande maison aux rideaux rouges et la rencontre de mon père devant cette maison où il avait voulu me montrer quelque chose, vint en aide à mon imagination. Aussitôt, dans mon idée, il fut décidé que nous nous installerions précisément dans cette maison et que nous y vivrions au milieu d'une fête perpétuelle, dans une félicité sans fin. Dès lors, le soir, je contemplais avec une curiosité avide les fenêtres de cette maison magique. Je me rappelais les invités si bien parés, comme je n'en avais encore jamais vu. J'entendais en rêve les sons de ces douces musiques qui me parvenaient à travers les fenêtres. J'examinais attentivement les ombres qui glissaient sur les rideaux, et je m'efforçais de deviner ce qui se passait là derrière. Mais il me semblait que c'était le paradis, la fête éternelle. Je me mis à détester notre pauvre logis, les guenilles dont j'étais vêtu. Et quand un jour, ma mère, se fâchant après moi, m'ordonna de descendre du rebord de la fenêtre où je m'étais installé comme d'habitude, il me vint aussitôt à l'esprit qu'elle ne voulait pas que je regarde précisément ses fenêtres, qu'elle ne voulait pas que j'y pense, que notre bonheur lui était désagréable et qu'elle désirait l'empêcher. Toute la soirée, j'observais ma mère attentivement et avec méfiance. Mais comment avait pu naître en moi une pareille hostilité contre un être aussi douloureux que ma mère? Ce n'est pas seulement que je comprenne maintenant sa vive souffrance. Il m'est impossible de me rappeler, sans un serrement de cœur, cette existence de martyr. Même alors, dans la sombre période de ma misérable enfance, à l'époque de ce développement anormal de ma vie première, souvent mon cœur se serrait de douleur et de pitié en même temps que le doute confus envahissait mon âme. Déjà alors, la conscience s'éveillait en moi, et souvent je ressentais douloureusement mon injustice envers ma mère. Mais nous restions étrangères l'une à l'autre. Je ne me souviens même pas de m'être blotti contre elle une seule fois. Maintenant, souvent, les souvenirs les plus minimes me font mal et troublent mon âme. Je me rappelle qu'une fois, oh, sans doute ce que je vais raconter est petit, banal, mais ce sont précisément de pareilles choses qui me tourmentaient et qui se sont gravées le plus douloureusement dans ma mémoire. Donc, un soir, que mon père n'était pas à la maison, ma mère voulut m'envoyer dans une boutique acheter du thé et du sucre. Mais elle réfléchissait et ne se décidait pas. Elle comptait à haute voix les pièces de billon, une misérable somme dont elle disposait. Elle compta bien une demi-heure et ne pouvait sortir de ses calculs. En outre, à certains moments, comme accablée de douleur, une sorte de torpeur la saisissait. Je me rappelle, comme si c'était maintenant, qu'elle marmonnait quelque chose en comptant doucement. On aurait dit qu'elle prononçait des mots au hasard. Ses lèvres et ses joues étaient pâles, ses mains tremblaient, et toujours elle hochait la tête quand elle ratiocinait ainsi à haute voix. « Non, non, il ne faut pas !» dit-elle tout à coup en me regardant. « Bon, il vaut mieux que je me couche. Et toi, Netyotchka, veux-tu dormir ?» Je ne répondis pas. Alors elle me releva la tête, me regarda doucement, avec une telle tendresse et tout son visage éclairé d'un tel sourire maternel, que mon cœur se mit à battre fortement et se serra. En outre, elle m'avait appelé Nietotchka, ce qui signifiait qu'à ce moment, elle m'aimait particulièrement. C'est elle qui avait inventé ce petit nom, transformant affectueusement en ce diminutif Nietotchka, mon nom d'Anna. Quand elle m'appelait ainsi, c'était le signe qu'elle voulait me combler de caresses. J'étais très ému. Je voulais l'embrasser, me serrer contre elle, pleurer avec elle. Pauvre mère, elle me caressa la tête longtemps, machinalement peut-être, et oubliant qu'elle s'adressait à moi, elle répétait sans cesse « Mon enfant, Annetta, Nietotchka !» Des larmes roulaient dans mes yeux, prêtes à s'échapper, mais je les retins. Je me raidis pour ne pas lui laisser voir ce que je ressentais, bien que j'en souffrisse moi-même. Non, cette hostilité ne pouvait pas être naturelle en moi. Ce qui m'excitait ainsi contre elle, ce ne pouvait pas être uniquement sa sévérité à mon égard, non. C'est cet amour fantastique, exclusif pour mon père, qui me perdait. Parfois, je m'éveillais la nuit dans mon coin, sur une petite paillasse, sous une mince couverture, et toujours j'avais peur de quelque chose. Dans mon demi-sommeil, je me souvenais que récemment encore, quand j'étais plus petite, je couchais avec ma mère et que j'avais peur de m'éveiller la nuit. Je n'avais qu'à me serrer contre elle, à fermer les yeux, à l'enlacer plus fortement, et aussitôt je me rendormais. Je sentais aussi tout au fond de moi que je ne pouvais pas ne pas aimer ma mère. J'ai remarqué plus tard que certains enfants sont monstrueusement dépourvus de sensibilité et que s'ils aiment, c'est d'une manière exclusive. C'était mon cas.